Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Jean-Paul Combet.
Bonjour.
Alors Jean-Paul Combet, nous voulions vous appeler ce matin rapidement pour évoquer avec vous la mémoire de Gustave Léonard qui vient de disparaître. C'est évoquer sa mémoire et parler surtout avec quelqu'un qui non seulement l'a bien connu mais également a travaillé avec lui. Sur votre label Alpha, vous avez fait plusieurs albums avec lui. J'ai retrouvé cette phrase sur le disque l'Orgue de Dombédos de Sainte-Croix de Bordeaux, enregistré en juin 2001, où vous écriviez « Respect de l'œuvre et de son créateur, rigueur face au texte mutuel, sens du dire en musique. Voilà ce que nous devons à Léonard et que nous essayons modestement de prolonger à travers la ligne éditoriale d'Alpha. » Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quelles circonstances vous l'aviez rencontré la première fois ?
Peut-être les premières rencontres, elles ont été virtuelles à travers le disque, c'est-à-dire lorsque j'étais adolescent, les vinyles, des cantates, d'autres pièces, et ça a vraiment été une rencontre musicale extrêmement, extrêmement forte qui m'a marqué jusqu'à maintenant. Je l'ai rencontré réellement beaucoup plus tard, dans les années 90, quand j'ai commencé à organiser des concerts. Je l'avais invité une fois à donner un concert, un petit récital de clavecin à Paris, puis il se trouve qu'on s'est... On s'est bien entendu et on est resté en relation depuis très longtemps jusqu'à maintenant.
Sur l'aspect humain, les premières rencontres, comment étaient-ils ?
Un mélange de très très grande réserve, de distance, dans un premier temps, et puis ensuite de beaucoup de petites attentions, beaucoup de témoignages de sympathie, de gentillesse, d'humour, on a beaucoup ri. Peut-être que pour l'instant c'est un peu difficile de faire un petit peu le tri dans les souvenirs, mais c'est vrai que les premiers souvenirs qui me viennent à l'esprit maintenant, curieusement, c'est pas des souvenirs musicaux, c'est soit les souvenirs dans sa voiture, parce qu'il adorait conduire,
il adorait les voitures,
hein. Et très bien, soit au restaurant après les enregistrements où on s'amusait beaucoup. On riait beaucoup. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui a une image peut-être un petit peu austère, un peu... Les gens parfois trouvaient qu'il était hautain, qu'il était distant, mais c'est aussi une façon de se protéger. Moi, j'ai vraiment le souvenir de quelqu'un de très, très chaleureux et très, très drôle.
Quand vous avez commencé à travailler avec lui, comment abordait-il chaque projet, aussi bien au niveau du choix des répertoires, des lieux, des enregistrements? Les idées venaient de vous, venaient de lui, comment ça fonctionnait ?
Les idées venaient de lui, bien sûr. C'est quelqu'un qui avait une idée extrêmement précise de ce qu'il voulait faire et de ce qu'il était intéressant de faire. C'est-à-dire, par exemple, le premier projet sur lequel nous avons travaillé ensemble, c'était un enregistrement de l'orgue de Sainte-Croix de Bordeaux, un très très bel instrument historique français de la milieu 18e siècle. Et il ne voulait plus enregistrer déjà à ce moment-là, il avait décidé d'arrêter complètement les enregistrements. Et c'est cet instrument-là qui lui a donné envie d'enregistrer. Il l'avait jamais enregistré auparavant. Et il avait le souhait, l'envie d'établir un contact avec ce très bel orgue et de laisser une trace. Donc, vous voyez, le projet, c'était toujours un substrat musical, quelque chose qui valait la peine. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, parce que j'ai travaillé avec des artistes très très différents sur des projets d'enregistrement très différents, et vraiment une des différences entre Leonhardt et beaucoup de musiciens, malheureusement, c'est le côté indispensable de ces enregistrements, c'est-à-dire pas d'opportunisme, pas de choses fugaces qui pourraient être juste intéressantes. Pour lui, il fallait vraiment que ce soit indispensable. Or, enregistrer cet orgue, c'était vraiment quelque chose qu'il jugeait nécessaire et indispensable. Et on a vérifié ça après sur tous les enregistrements qu'on a fait ensemble.
Comment était-il pendant les enregistrements ? Est-il méticuleux, etc. Comment ça se passait ? Est-ce qu'il réécoutait énormément ?
Méticuleux, très concentré. Très concentré, c'est-à-dire que il arrivait en enregistrement prêt. Alors ça peut sembler bizarre qu'on dise ça. On pourrait penser que tous les musiciens sont prêts ou en enregistré. Pas du tout. Je dirais même que plus le temps passe et plus les conditions économiques deviennent difficiles, plus les musiciens travaillent pendant l'enregistrement, ce qui pose de vrais problèmes. Lui, il était prêt. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'un enregistrement durait extrêmement peu de temps. Il n'y avait pas de montage. Il était très concentré, très renfermé, même au moment de commencer à enregistrer, parlant peu, étant très... Alors on sentait vraiment une très très grande tension. Une prise, et puis c'était terminé. Parfois, l'ingénieur du son réussissait à lui en arracher une deuxième, sous des prétextes un petit peu... du genre, je crois qu'on a entendu un petit bruit, une voiture qui est passée, etc. Donc, Leonhardt n'était pas dupe, évidemment, mais en fait, il n'y avait pas besoin de deuxième prise. Il était tellement concentré qu'une prise suffisait, et c'est ce qui fait que ces enregistrements n'ont pas de montage. Là encore, quand je réécoute maintenant les disques qu'il a fait avec nous, ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment tout d'une traite. Il y a un souffle, il y a une intelligence de la musique qui fait que du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un geste musical et une pensée musicale qui s'exprime. Alors, inutile de faire un dessin, on sait très bien aujourd'hui que une plus grande partie des enregistrements, il y a des centaines de points de montage, c'est devenu quelque chose qui est hyper technologique. Avec Leonhardt, c'était pas du tout ça. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je me souviens, que je garde très fort lorsque je repense à ces enregistrements et surtout lorsque je les écoute, c'est vraiment un souffle, comme en concert. En fait, il cherchait à essayer de donner dans l'enregistrement la même énergie et la même intégrité que dans le concert. Dans le concert, on ne peut pas faire de rustine, on ne peut pas se rattraper aux branches, on ne peut pas faire du montage, il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'on donne dans l'instant. Et dans l'enregistrement, Leonhardt faisait ça. Je crois que c'est vraiment, en tant qu'interprète, quelqu'un qui donnait tout. C'est-à-dire, pas dans le calcul, pas dans la manipulation de la musique, que ce soit en concert, que ce soit en disque, au public, il donnait tout.
Thank you.
On a parlé d'élan, c'est vrai qu'effectivement, de gestes, on a l'impression que ce geste, il était sans fin. Et d'ailleurs, enfin, son dernier concert, quand même, datait d'il y a à peine un mois, même si malheureusement, son état, l'état de sa santé n'était pas au mieux. Quel regard portait-il justement sur son art, ses disques et sa carrière, sur ce qu'on peut plutôt appeler la fin de sa vie, puisque les albums que vous avez faits avec lui sont dans les années 2000. Est-ce qu'il se... Comment il voyait ça? Vous avez parlé d'une nécessité, notamment sur certains projets. Pour lui, il fallait enregistrer ça, il fallait laisser une trace. Quel regard il portait sur cette partie de sa vie? Est-ce que c'était une mission, finalement? C'est une raison d'être, ce côté « je ne m'arrête jamais », il n'y a finalement que la mort qui m'arrête, et la maladie?
Je n'ai rien à ajouter à ce que vous dites, je crois que c'est exactement ça. L'idée qu'il avait entre les mains quelque chose qui ne venait pas de lui, c'est-à-dire que cette capacité à comprendre la musique, à la jouer, je crois vraiment qu'il avait le sentiment qu'il n'y était pour rien. Et que par conséquent, il devait quelque chose aux autres. À partir du moment où il avait ce qu'il appelait ce don, il devait le partager avec les autres, et jusqu'au bout, il devait le transmettre aux autres. Le terme de mission que vous employez, je crois qu'il l'a, oui, je l'ai entendu le dire souvent, cette idée qu'il n'avait pas le choix.
Par rapport justement aussi à la transmission, comment était-il face justement à cette transmission aux jeunes interprètes, à ce qu'on pourrait appeler l'après-lui? Il travaillait avec parfois des jeunes musiciens, des jeunes ensembles, etc. Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour lui aussi?
Je ne dirais pas par principe, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui avait la pédagogie ou la transmission vraiment chevillée au corps, mais... Je l'ai toujours vu, par contre, reconnaître ses pairs. J'ai le sentiment que lorsqu'il avait en face de lui quelqu'un qui donnait quelque chose, là, on sentait qu'il y avait une envie de proximité et puis l'envie de faire passer quelque chose. Un des derniers exemples que j'ai eu à ce sujet-là, c'était avec Benjamin Allard. Je crois qu'une des premières fois où Leonhardt l'a entendu, c'était au moment où Benjamin a passé le concours de clavecin à Bruges, et où Leonhardt était président du jury, et où Benjamin a eu le premier prix. Et depuis, il l'a beaucoup suivi. Je dirais pas, il ne l'a pas donné de cours, il l'a pas enseigné, mais il a toujours été là pour accompagner, pour dire quelque chose, pour apporter un soutien. Et ça, je crois que ça a été une de ses grandes caractéristiques, une grande force avec des gens comme Pierre Antaille, avec des gens comme Skip Sampé, Elisabeth Joyer, Benjamin Allard plus récemment. Cette capacité à donner quelque chose en très peu de mots, en très peu de phrases, mais voilà, faire passer un relais. Et j'ai constaté pendant toutes ces années où j'ai pu le côtoyer de temps en temps, assez régulièrement, qu'il avait une grande attention sur ce plan-là, c'est-à-dire ne pas transmettre quelque chose parce que c'était un travail et parce que c'était une obligation de professeur, mais passer un relais à des gens chez lesquels il sentait qu'il se passait quelque chose d'intègre et de fort.
À titre personnel, est-ce que vous avez un Leonhardt, j'allais dire, de prédilection? Est-ce qu'il y a un enregistrement ou un concert, quelque chose qui reste pour vous une sorte de sommet? C'est toujours difficile, j'imagine.
Beaucoup, beaucoup de choses, tellement, tellement de choses. C'est vrai que une chose qui me touche énormément, c'est un enregistrement qu'il avait fait avec nous sur un instrument très particulier qui est un clavier organum, un mélange d'orgue et de clavecin. Et c'est vrai que quand je réécoute les premières pièces, j'entends quelque chose que je n'ai jamais entendu avec d'autres interprètes. Et oui, là je le retrouve dans cette musique, dans ce côté un petit peu magique de la production du son en même temps, du clavecin et de l'orgue, qui fait qu'on a l'oreille un peu déstabilisée. Oh, j'aimerais beaucoup de choses, mais celui-là, je l'aime beaucoup, oui.
Bien, Jean-Paul Combet, merci. Je rappelle juste que vous avez ouvert un espace consacré à la culture baroque à Paris qui s'appelle L'Autre Monde, au numéro 3 de la rue Crébillon. Merci pour ces souvenirs sur Gustave Leonhardt. Merci, Jean-Paul Combet.
www.marxisman.com. Rencontre par Marx Zisman.